La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Nous sommes des élèves de 4e 6 du collège Saint-François d'Assise à Aubenas. Dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, nous réalisons des interviews de plusieurs artisans d'art qui seront diffusées sur la radio Info RC. Aujourd'hui, nous allons interviewer Manon Scherpe, sculptrice. Nous nous sommes rendus au 18A, qui est la maison des métiers d'art dans laquelle Manon Scherpe a son atelier. Bonjour Manon.
Bonjour.
Nous allons vous poser des questions concernant votre métier pour mieux connaître en quoi consiste la sculpture sur bois et la sculpture éphémère. Ensuite, votre parcours professionnel et votre formation.
Vous exercez votre métier dans un atelier qui se situe au 18A. Pourquoi avoir fait le choix de vous installer ici ?
J'ai choisi de m'installer ici tout simplement par hasard parce que j'ai découvert qu'il y avait des ateliers de disponibles au 18A que je ne connaissais pas. Et j'ai fait une visite par hasard dans la boutique. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait des ateliers de disponibles, je me suis installée ici.
Différents artisans sont installés ici. Avez-vous le temps d'échanger entre vous ?
Oui, on se croise dans les couloirs et aussi parfois le midi ou à la boutique. Même si je n'ai pas encore intégré la boutique tout de suite, je vais bientôt y être. Donc, on a le temps de communiquer.
Afin de découvrir votre métier, Manon, nous allons vous poser des questions sur votre manière de travailler.
Avant toute chose,
en quoi consiste votre métier de sculptrice sur bois et doreuse à la feuille ?
Alors, mon métier de sculptrice sur bois, je le pratique depuis 22 ans. J'ai travaillé dans les monuments historiques. Pas mal en tant que sculptrice et doreuse, justement. Donc je restaurais des églises, des châteaux et d'autres monuments. Je prenais les sculptures qui étaient endommagées et je refaisais ce qui avait besoin d'être fait, et en dorure aussi. Donc j'ai pratiqué beaucoup de style Louis XV ou Louis XVI, par exemple. Et je me suis diversifiée ensuite sur d'autres matériaux éphémères.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'opportunité, encore une fois, de sculpter à Valoir, justement. J'ai commencé à Valoir lors d'un concours de sculpture sur neige où on m'a proposé de faire partie de l'équipe et je voulais depuis longtemps sculpter en grand. Alors là, pour le coup, c'était vraiment du gigantesque parce que c'est 4 mètres de haut, la sculpture. Et c'était en équipe de 3 personnes. Et quand j'ai commencé, je me suis dit que j'avais envie de continuer et j'ai pu intégrer après des équipes de sculpteurs qui sculptent l'hiver. Et comme j'ai bien aimé la neige, parce que c'était de la sculpture monumentale, je me suis après orientée sur d'autres matériaux qui sont le sable, le foin, le métal. Je fais des sculptures land art aussi, mais toujours en monumental. Voilà, je fais ça depuis 16 ans.
Combien êtes-vous en France à exercer ce métier si particulier de sculptrice, glace, sable, neige, foin ?
J'en ai aucune idée. On est très peu nombreux. Les personnes qui font tous ces matériaux-là en même temps, j'en connais pas beaucoup. En fait, je me demande même si je suis pas la seule. Ou alors, on travaille des matériaux un petit peu différents. J'ai des copains qui sont plus spécialisés dans le métal, d'autres qui sont plus spécialisés dans la neige ou dans le sable. Moi, je fais un peu tout de manière équivalente. Je fais quand même beaucoup de neige l'hiver et de glace. Et au niveau du nombre, je suis incapable de le dire. On est vraiment pas très nombreux. On est un petit réseau, on se connaît quand même pas mal. Et souvent, on travaille en collaboration sur des événements.
Y a-t-il beaucoup de femmes ?
Non, vraiment pas beaucoup. Moins de 5, je pense. Dans les personnes que je connais. Après, forcément, il y a aussi d'autres gens qui travaillent peut-être dans d'autres régions de France que je ne connais pas, etc. Parce que moi, je suis quand même plutôt localisée au niveau de mes événements sur le sud-est de la France, même si il m'arrive parfois de partir en Bretagne ou sur l'Atlantique ou à l'étranger.
Avez-vous participé à des compétitions ou des festivals ?
Oui, j'ai participé à pas mal de compétitions de sculpture sur neige, notamment à Valoire, en sculpture sur neige et glace, et en off aussi beaucoup. Et sinon, je suis partie à l'étranger, par exemple au Québec, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. Voilà, pour les concours, c'était plutôt Québec et États-Unis.
Est-ce qu'aux compétitions, il y a des thèmes imposés ?
Non, le thème est libre, justement, on est sélectionné sur projet. Donc en fait, comme il y a beaucoup de candidatures, les sculpteurs envoient le projet avec une maquette ou un croquis. Et c'est les organisateurs qui s'occupent de sélectionner les projets qui les intéressent parce que les places sont limitées, forcément.
Où trouvez-vous votre inspiration ?
Alors, mon inspiration, je suis une grande voyageuse, donc je m'inspire beaucoup de mes voyages et des cultures différentes parce que j'adore tout ce qui est différent. Et je m'inspire aussi beaucoup de la nature. La musique aussi, ça m'inspire énormément. Et j'adore les arts premiers, tout ce qui est art africain, art inuit, en fait voilà, tous les arts premiers, j'adore ça. Donc je me fais mon petit melting pot intérieur. Et après je sors une sculpture, mais je la réfléchis pas beaucoup à l'avance.
Combien de temps faut-il pour réaliser une sculpture avec vos différents matériaux ?
Alors vraiment, ça dépend des matériaux. Quand je suis sur des événements, ça peut aller de une semaine à 10 jours ou 15 jours de travail. Tout dépend du projet, en fait. Souvent, sur les événements, on est aussi plusieurs sur une sculpture parce que c'est des sculptures qui font 5 mètres de haut, en général, au minimum. Donc, c'est vrai que quand on doit construire quelque chose d'aussi grand, on a besoin des fois d'être plusieurs parce que le temps est très limité. Après, pour une sculpture sur bois, encore une fois, ça dépend de la taille. Je peux mettre 2 jours sur une petite sculpture ou je peux mettre une semaine, 15 jours, en fait. Ça dépend du sujet et de la taille, souvent. En céramique, c'est pareil.
Comment procédez-vous pour sculpter certains matériaux et avec quels outils vous vous aidez à faire ça ?
Alors, quand je suis sur des événements, un outil dont j'ai besoin la plupart du temps, mis à part en sable, c'est une tronçonneuse. J'ai besoin d'une tronçonneuse pour la sculpture sur foin parce qu'on a du bois à couper. Dans la sculpture sur neige et sur glace, j'en ai besoin aussi parce que c'est ce qui me permet de dégrossir ma sculpture et d'arriver à une forme générale plus rapidement. Après, quand je travaille dans le sable, j'utilise des spatules, des truelles, toutes sortes de choses comme ça. Des petits outils que je me suis fabriqués maison, des petits morceaux de fil de fer que j'ai tordus, des choses comme ça. En sculpture sur neige et glace, eh ben, j'ai des gouges. Alors, c'est les mêmes outils qu'un sculpteur sur bois, mais en géant. Alors ça aussi, c'est des outils que je me suis fabriqués, parce que c'est plus simple. Comme ça, on a exactement l'outil qu'on veut. Je me suis fait des râpes aussi, avec des morceaux de métal, des choses comme ça. Et sinon, en foin, bah après en foin, c'est comme on construit une charpente qu'on va habiller en foin, on a besoin de tout ce qui nous permet de visser, couper, disquer, etc., souder. Donc j'ai tout ce matériel-là aussi.
Quel est le matériau le plus dur à sculpter ?
Alors, je dirais pas qu'il y en a de plus dur à sculpter, si on entend dur par dans le sens difficile, tu veux dire compliqué
Celui qui prend plus de détails, qui est plus compliqué, qui prend plus de temps, tout ça.
Alors, ils ont tous des propriétés différentes, les matériaux. Donc, chacun a sa difficulté et ses avantages. L'avantage de sculpter en monumental, c'est qu'on peut faire du très très grand en très peu de temps, comparé à la taille, en fait. Par exemple, le foin, on peut faire beaucoup moins de détails que dans du sable. Dans la neige, comme c'est blanc, c'est difficile à mettre les volumes en valeur parce qu'il n'y a pas d'ombre, vraiment. Y a le blanc, ça accroche moins les ombres. Donc après, il faut jouer aussi sur l'éclairage pour que la sculpture soit mise en valeur. Et après, le bois et la céramique, c'est à peu près équivalent. C'est pas compliqué, mais il faut savoir sculpter et connaître les volumes, en fait. Voilà.
Pouvez-vous nous expliquer le processus d'application pour les statues monumentales.
Donc, pour réaliser une sculpture monumentale, il faut tout d'abord définir le projet, ensuite la taille et le matériau. Une fois qu'on a défini tout ça avec le client, on lui fait une proposition, soit par croquis, soit juste verbal. Et c'est accordé ou pas. Et puis, en général, quand on intervient après sur le lieu, parce qu'on va les faire en général sur le lieu de l'événement, on se prépare une petite maquette à l'avance parce qu'on a un temps très limité de réalisation. Si par exemple on doit faire une sculpture de 5 mètres de haut en 5 jours, il faut vraiment avoir les proportions en tête. Et donc pour ça, on se prépare une petite maquette en terre ou en plastiline sur laquelle on va prendre des cotes en fait, pour savoir par exemple si c'est un personnage ou à quelle hauteur se trouve le genou, à quelle hauteur se trouvent les épaules. Parce que quand on est face à une sculpture de 5 mètres de haut, juste devant, sans recul, c'est très difficile de placer les points importants. Donc c'est vrai qu'avec des cotes qu'on peut prendre sur une petite maquette, ça nous facilite grandement le travail et comme ça au moins on sait exactement où on va. Et en fait, en regardant aussi la forme générale, régulièrement on jette un coup d'œil dessus et on voit si ce qu'on est en train de réaliser c'est cohérent ou pas. Après c'est tout un travail, il faut avoir l'habitude en fait.
Quel est le matériau que vous appréciez le plus à faire ?
J'aime tout en fait. J'aime tout. J'adore le bois parce que c'est une belle matière. La terre aussi. On peut faire des belles choses. Le sable, c'est hyper sympa parce que c'est très ludique en même temps. On est au soleil, sur la plage. Et on peut faire de super détails si on a un sable tout fin. La neige, j'aime beaucoup aussi parce que c'est atypique. Même si on est dans le froid, on se dépense bien. Donc, en général, ça va bien au niveau de la température. Peut-être le foin, ça pique un peu trop. C'est celui que j'aimerais le moins, je dirais.
Quel est votre ressenti lorsque vous terminez une création ?
Je suis très contente. Et j'ai toujours tendance à être très exigeante envers moi-même. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire le tour et à avoir beaucoup de petites choses qui, à mon œil, pourraient être perfectionnées. Mais après, il faut savoir lâcher le sujet au bout d'un moment. Et en général, ça va quand même, je suis assez contente.
Comment mettez-vous ensuite en valeur vos créations ?
Alors, pour le moment, ça sera à la boutique du 18A. Et sinon, après, c'est sur les événements, en fait. Quand je fais une sculpture monumentale, je me rends sur place pour la faire sur place parce qu'elle est tellement grande que je ne peux pas la déplacer. Et donc, elle est mise en valeur pendant l'événement ou des fois, elle peut rester, pour le foin, par exemple, ça peut rester un an et demi en place. Donc, elle est exposée sur le lieu de fabrication.
Collaborez-vous avec d'autres professionnels ? Si oui, lesquels ? Et pourquoi vous aimez bien travailler avec d'autres professionnels ?
Les autres professionnels avec qui je travaille, c'est mes collègues sculpteurs avec qui je travaille sur des événements. Et maintenant, on se connaît depuis plus de 15 ans. Donc, on est copains, on n'est plus collègues. Et donc forcément, j'aime bien travailler avec eux, parce qu'on s'entend bien, et c'est assez fluide.
Pour quelle clientèle travaillez-vous ?
Alors, je travaille beaucoup pour des offices de tourisme, des fois pour le département, pour des mairies, ou pour des entreprises d'événementiel, en fait, qui organisent des séminaires ou des choses comme ça. Ou alors, ça peut arriver pour des inaugurations, de bâtiments ou de je ne sais quoi en fait, voilà. Là je reviens d'Allemagne, c'était pour la fête de Pâques en Allemagne en fait, dans un grand parc d'un grand château qui ressemble à Versailles un petit peu. Et sinon en Suisse c'était pour une fête régionale suisse qu'ils organisent tous les ans autour d'un fromage célèbre qui s'appelle la tête de moine. Voilà. Sinon, voilà, l'hiver, je travaille aussi beaucoup dans des bars et qui font restaurants et hôtels qui sont les villages igloos.
et qui sont situés dans plusieurs stations de ski connues dans les Alpes. Donc ça fait très longtemps que je travaille là-bas pour eux.
Nous avons lu sur votre site internet que vous avez participé à la reproduction de l'ASCO 4 pendant 3 ans. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été vos missions ?
Alors, pendant la copie de la grotte, j'étais peintre et modeleuse. Alors, ça consistait à reproduire le grain de la paroi, modeler la paroi, reproduire les gravures et ensuite les peintures. Alors, les peintures, il fallait trouver la teinte de la peinture, mais aussi du fond de la paroi, parce qu'on partait sur une sorte de page blanche. Donc voilà, il fallait donner d'abord tout le volume à la paroi et après reproduire les figures de la grotte.
Quel a été votre ressenti une fois terminé ? Qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Ouais, l'ASCO, c'est une expérience assez unique et je considère que j'ai eu beaucoup de chance d'y participer. C'est vraiment quelque chose de très spécial qui est difficile à exprimer en fait si on ne l'a pas fait. Mon ressenti, c'est juste que j'ai eu tellement de chance de participer à ce chantier. J'ai même eu la chance de rentrer dedans pendant 25 minutes, ce qui est vraiment très rare maintenant parce que c'est plus autorisé. Et alors c'était une période d'apprentissage au niveau humain aussi qui était très 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 forte parce qu'on était assez nombreux à participer à ce chantier. On était 25 peintres à la fin, même si on a commencé à 5 ou 6. Plus tout le personnel qui était à côté, les autres collègues qui construisaient les parois, qui faisaient les moulages, etc. On était assez nombreux. Mais ouais, c'était unique et je suis très heureuse d'y avoir participé.
Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour devenir sculptrice ?
Alors, je dirais que tout le monde peut être sculpteur, si je veux être objective. À mon avis, il n'y a pas de restriction. Après, c'est vrai que si on a quand même des facilités au niveau du dessin, par exemple, et si on voit bien en 3D, ça aide beaucoup. Mais tout le monde peut faire des sculptures. Et évidemment, j'ai suivi une école, j'ai appris dans une école, donc j'ai quand même des bons tuyaux à la base. Mais je connais des copains sculpteurs avec moi qui sont autodidactes et qui sont très forts.
Nous allons maintenant vous poser des questions sur votre parcours et diplôme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que je voyageais beaucoup. J'étais saisonnière, je m'éclatais vraiment, et je m'éclate toujours d'ailleurs à bouger. Mais je faisais des métiers qui étaient plutôt des métiers saisonniers, donc c'était pas hyper épanouissant pour moi, étant donné que je suis quelqu'un de très manuel, et j'avais vraiment besoin de faire quelque chose avec mes mains, en fait, et qui me permette d'être vraiment qui je suis. Donc j'ai fait cette école de sculpture, dont j'ai entendu parler par mon père, parce qu'il était sculpteur sur bois aussi, quand j'étais petite. Et il a dû s'arrêter parce que c'était difficile de trouver du travail. Il faisait de l'ornementation sur meubles, en fait. Donc à l'époque, quand j'étais petite, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Et puis d'un seul coup, le marché s'est arrêté. Donc il a arrêté la sculpture. Et j'ai jamais envisagé de devenir sculptrice à mon tour. Surtout que je suis sculptrice en 3D et lui ne l'était pas, donc c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et donc il a décidé de faire une petite remise à niveau 20 ans après. Il s'est fait un petit stage dans l'école où je suis allée, qui est l'école de sculpture et d'ébénisterie d'Avignon, au Thor, à côté d'Avignon. Et là, il m'en a parlé et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça me brancherait bien. Donc j'ai postulé et j'ai été sélectionnée. Alors j'ai eu beaucoup de chance aussi. Mais je ne le faisais pas pour en faire mon métier. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de faire un truc pour moi, tout simplement. Et là, par contre, une fois que j'ai terminé l'école, je me suis dit que c'est bon, je sais ce que je veux faire maintenant et je sais aussi ce que je ne veux plus faire.
À partir de quel âge avez-vous décidé d'être sculptrice ?
Bah, j'ai passé mon diplôme, j'avais 27 ans. Donc le temps que je me décide et que j'ai le financement, parce que j'ai été financée pour faire cette école, j'avais pas les moyens, c'était un peu cher. Donc j'ai eu un financement, mais donc ça m'a pris plus d'un an de démarche auparavant pour pouvoir l'intégrer. Donc voilà, mais on va dire que c'est à partir de mon diplôme.
Quel diplôme ?
J'ai un diplôme de sculptrice sur bois et d'oreuse à la feuille.
Comment s'appelle l'école où vous avez été formée ?
Alors, j'ai été formée à l'ESEA, c'est l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon. C'est une école qui se trouve au Thor, pardon, à côté d'Avignon, et qui propose des formations d'ébéniste et de sculpteur et d'horreur. Pas sculpteur d'horreur d'apostrophe, mais sculpteur d'horreur...
J'ai fait un an.
Le cursus, c'est un an de formation intensive, 8 heures de sculpture par jour.
Qu'aimez-vous le plus dans ce métier ?
Alors, j'aime ce métier parce que ça me permet de bouger et ça me permet de créer. En fait, je pense quand même que j'ai une âme plutôt artistique, entre guillemets, dans le sens où si je ne suis pas dans ce milieu-là, je ne me sens pas vraiment à ma place. Donc, c'est parfait pour moi, en fait.
Et pour finir, selon vous, quels sont les avantages et inconvénients du métier de sculptrice ?
Alors les avantages dans la façon dont je l'ai développé, c'est que je peux partir loin, longtemps, à l'étranger, en France. Je me balade, je m'ennuie pas, je travaille plein de matériaux différents, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je ne fais jamais la même sculpture, j'ai jamais fait deux fois la même depuis le début, parce qu'une fois que je l'ai faite, j'ai plus envie de la refaire. Ça me permet de m'épanouir quand même pas mal et de toujours pouvoir interpréter ce que j'ai dans la tête sans limite en fait, parce que c'est illimité. Après, les inconvénients, je dirais pas qu'il y en a. Il faut trouver du travail, c'est sûr, je suis indépendante, donc c'est pas pareil que d'être salariée dans une entreprise et d'avoir du travail tous les jours et un revenu qui tombe tous les jours. Mais en fait, c'est un rythme qui me convient parfaitement parce que je suis beaucoup plus libre d'organiser ma vie comme j'ai envie et comme j'aime.
Y a-t-il beaucoup de débouchés ?
Alors, si on parle de sculpture sur bois uniquement, c'est très compliqué, les débouchés. C'est aussi pour ça que je me suis diversifiée. Enfin, c'est pas que pour ça, mais... Ça fait partie des raisons qui font que j'arrive encore à en vivre jusqu'à présent. Parce que de vivre uniquement de la sculpture sur bois, ça devient compliqué. Il n'y a pas beaucoup de travail en vrai. Donc les événements, ça me permet de continuer mon métier. Et là, comme j'intègre la boutique, je vais aussi vendre mes sculptures dans la boutique, ce qui me permettra peut-être de dégager un petit revenu. Je verrai, c'est un test. Mais ce que je prévois surtout aussi, c'est d'organiser des stages de modelage et des stages de sculpture pour former les gens parce que je pense qu'il y a une demande. Je pense que les gens ont besoin aussi, besoin de se retrouver, besoin de pratiquer des métiers manuels parce que ça fait du bien. Et avec mon expérience, je peux largement proposer des choses intéressantes. Donc c'est ce que je suis en train de mettre en place et qui va démarrer bientôt.
Utilisez-vous les réseaux sociaux ? Si oui, lequel et pourquoi ?
Alors j'ai en dehors de mon site, j'ai aussi une page Facebook professionnelle et Instagram, sur lesquels je tente de mettre mes petites réalisations. Voilà, et c'est ce qui me permet aussi de toucher un plus grand public.
Merci Manon de nous avoir fait découvrir votre métier et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était Mariam, Fabio et Idriss, élèves de la 4e 6 du Collège Saint-François d'Assise d'Aubenas.
Merci beaucoup.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.